Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 28 mars dernier à Montpellier se tenait un colloque intitulé « Les interventions non médicamenteuses au cœur des médecines intégratives, préventives, complémentaires et personnalisées ». Un événement majeur dans le ciel de la médecine cartésienne française, celui de plusieurs organisations de soins demandant haut et fort au gouvernement de donner les moyens aux scientifiques d'explorer plus sérieusement les médecines dites alternatives. Figure de ce mouvement de fond de la Société française et de la médecine, Antoine Sénanc, un médecin et écrivain qui dans un nouveau livre va lui jusqu'à plaider pour la prise en compte de deux voies de guérison, l'une profane, l'autre spirituelle. Guérir quand c'est impossible, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec comme invité Antoine Sénanc, donc auteur de cet ouvrage paru aux éditions Marabout. Vous êtes médecin et neurologue. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, merci de votre accueil.
Merci à vous d'avoir fait un détour par nos studios. Donc c'est un livre, alors je ne sais pas si c'est un livre si original que ça, vu le mouvement de fond de la société française, moi en tout cas qui ne suis pas forcément familier de ce type d'ouvrage, j'avoue que j'en étais surpris. Le sous-titre de votre livre, c'est « D'autres voies de guérison existent ». Pour commencer l'émission, peut-être comment vous présenteriez un peu la thèse de votre livre ?
La thèse de mon livre, c'est une thèse justement qui essaie d'élargir la prise en charge thérapeutique des maladies au-delà d'une simple idée que les maladies sont liées à des problèmes purement corporels. Donc c'est essayer d'élargir la prise en charge et la vision que les médecins ont de la maladie et ce qui leur permettra, j'espère, de mieux prendre en compte des maladies qui résistent encore à la prise en charge classique de la médecine. Alors moi, à la base, Je suis neurologue, donc j'ai l'expérience de maladies qui sont difficiles à traiter, voire impossibles à traiter. Et je crois que c'est un petit peu la racine de ce livre. C'est en 2019, on ne guérit pas de grandes maladies neurologiques. On ne guérit pas la maladie d'Alzheimer, on ne guérit pas la maladie de Parkinson, on ne guérit pas la sclérose en plaques. On limite les signes de ces maladies, on limite les poussées, on aide les patients à supporter l'évolution de la maladie. Mais la maladie elle-même, la racine de la maladie, on n'a pas accès. Alors, au bout d'un certain nombre d'années de pratiques neurologiques face à ces grandes maladies qu'on n'arrivait pas à traiter, je me suis finalement retrouvé un petit peu dans la peau d'un médecin, d'un thérapeute qui ne guérissait personne. Et c'est vrai que c'est difficile d'être un médecin qui ne guérit pas. Et ça, c'est un petit peu le problème de la neurologie. Et à force de ne pas guérir, je me suis dit, il va falloir peut-être que je réfléchisse un petit peu à tout ça et voir ce que je peux proposer à mes patients plutôt qu'un rendez-vous à 3 mois pour suivre une évolution sur laquelle je n'avais pas beaucoup de possibilités d'action. Alors, et je me suis dit que justement il fallait ouvrir cette médecine classique centrée sur le corps à d'autres voies thérapeutiques, et j'ai commencé à chercher, à faire un peu une sorte de tour d'horizon des différentes voies thérapeutiques hors médecine classique que j'avais toujours pratiquée. J'ai découvert des choses assez intéressantes et parfois même assez bouleversantes.
Alors on va y venir. Votre livre est sorti c'est en août de l'année dernière, donc août 2018. Comment a-t-il été accueilli par la communauté des médecins ? Est-ce que vous êtes vu comme un drôle d'énergumène ?
Je sais pas comment je suis vu, j'y pense pas à vrai dire. Globalement, c'est un livre qui n'a pas été rejeté, puisque c'est un livre qui ne rejette rien. C'est pas un livre qui est contre la médecine classique, c'est surtout un livre qui ouvre ses bras aux autres médecines.
Donc, vous êtes quand même critique à l'égard d'une médecine qui se priverait d'autres, d'autres réalités.
Oui, je suis critique à l'égard d'une médecine qui se contente du corps et qui met toutes les influences spirituelles qui sont si importantes dans l'évolution des maladies de côté. Un livre qui ne rejette pas la médecine classique, donc les médecins classiques n'ont absolument aucune raison de rejeter ce livre, et globalement ce livre a été très bien reçu par la communauté médicale. Enfin, j'ai pas reçu de lettre d'insulte jusqu'à maintenant, ça peut venir, parce que je pense que c'est un livre qui ouvre ses bras, donc je pense que c'est un livre qui est bien accueilli.
Alors il y a des phrases comme ça, entre autres on trouve ça page 28, ça résume un petit peu. J'attends la guérison des maladies mortelles ici et maintenant, j'attends temps des miracles, voilà, de la part d'un médecin, ça peut surprendre. Alors vous commencez cet ouvrage en parlant en partie de vous, comme l'émission ne dure qu'une heure, peut-être n'aurais-je qu'une question sur ce sujet. Vous dites qu'on parle parfois de la vocation des médecins, que vous ne savez pas si vous avez eu une vocation, mais que peut-être avez-vous choisi la médecine pour exorciser une peur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, c'est difficile de définir exactement ce que c'est que la vocation médicale. J'ai pas eu l'impression de partir en médecine avec une formidable vocation comme on peut l'avoir, comme pas mal de mes confrères l'ont eu. Je suis parti en médecine avec l'idée de rendre service aux autres et de faire un métier intéressant et libre. C'était cette idée de liberté qui m'avait attiré en médecine, et puis l'idée de pouvoir apporter quelque chose aux malades. Alors le problème, c'est qu'encore une fois, j'ai choisi la mauvaise spécialité, puisque c'est la pire des spécialités, la neurologie, puisque c'est là que le médecin est tellement face à ses limites que finalement, il peut remettre un petit peu en question son utilité auprès des malades. Bien que, bien sûr, les neurologues sont utiles, tous les médecins sont utiles. Mais je pense que cette vocation, en fait, était un petit peu innocente, c'est-à-dire que je voyais la médecine de manière beaucoup plus ouverte et utile qu'elle n'est finalement, puisque je me suis rendu compte que au bout d'un certain nombre d'années de pratique, mes rêves de jeune médecin avaient une petite, étaient un peu dissociés par rapport à la réalité de ma pratique. Donc c'est aussi la raison de ce livre, c'est que je voulais essayer de retrouver justement le sens de cette jeune vocation que j'avais, qui s'était un peu usée le long de tous les échecs de prise en charge des maladies neurologiques, et je voulais retrouver justement cette soif de guérir. Et
vous parlez aussi de la question de la mort à un moment.
Vous savez, tous les médecins ont un rapport particulier à la mort, puisque finalement faire de la médecine, c'est se rapprocher de la mort. Alors quand vous êtes un jeune médecin, que vous avez 25 ans, c'est un peu particulier cette idée de se rapprocher de la maladie et de la mort, de vivre avec ça, alors que finalement le réflexe habituel de tout être humain, c'est essayer justement de mettre le plus de distance par rapport à la maladie et à la fin de la vie. Le médecin, il fait le contraire, il réduit la distance pour être au contact, mais c'est peut-être un petit peu avec une idée de se vacciner, c'est-à-dire d'être près de la mort pour en permanence, avec l'idée que ce contact rapproché a l'effet d'un vaccin spirituel qui protège de la mort. Mais en fait, la médecine ne protège pas du tout de la maladie et de la mort, et au contraire, il faut se méfier de ce contact avec la fin de la vie que vous avez quand vous êtes très très jeune, parce que c'est quelque chose qui finalement altère beaucoup de choses en vous. Et moi, j'ai senti que ce contact assez violent que j'ai ressenti, parce que j'ai vraiment commencé la médecine de manière assez frontale, en prenant des gardes de réanimation, des gardes d'urgence, donc j'ai été très vite au contact avec de la médecine, on va dire, charnelle, une médecine de guerre. Et finalement, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont altérées en moi progressivement au contact de ces expériences humaines très violentes. Donc j'essaie aussi, avec cette idée de médecine spirituelle, de reconstituer des choses que la médecine classique a noyé en moi, et de réanimer finalement une vocation tardive et un nouvel altruisme. Et ça, c'est finalement, je me défends contre cet effet assez pervers de la médecine qui vous enlève pas mal d'espoir et de gaieté. Et donc l'espoir et la gaieté, j'essaie de la retrouver justement par cette spiritualisation de la médecine et par cette conviction que il y a des choses à faire pour guérir les maladies en dehors de ce que nous propose la médecine du corps pur.
Alors, il y a justement un gros dossier du journal La Vie qui est sorti la semaine dernière, intitulé « Le médecin intérieur ». Vous êtes interrogé dans ce dossier spécial de l'hebdomadaire La Vie. Le titre de votre interview, c'est donc « Explorer la voie de la guérison spirituelle ». Alors, vous laissez entendre dans cet article et puis dans votre livre que vous ouvrez la porte en fait à deux réalités différentes. Alors, je ne sais pas s'il faut tout à fait les distinguer. En tout cas, dans l'interview que vous avez donnée au journal La Vie, vous les distinguez. C'est la force du mental et puis les réalités religieuses.
Oui.
Est-ce que déjà ça peut faire deux nouvelles portes d'entrée que n'envisage pas la médecine moderne ?
Oui, c'est deux portes d'entrée qui donnent sur la même pièce. Hein. L'idée, c'est que il faut encore une fois élargir la médecine en dehors du simple horizon du corps, et donc concevoir l'idée d'une médecine spirituelle. Alors, la médecine spirituelle, finalement, on peut la diviser en deux, bien que cette division soit effectivement très abstraite.
Il y a, c'est abstraite, mais ça correspond à deux réalités de l'homme, quand même. La réalité de l'âme et la réalité du psychisme sont deux choses différentes.
Ça correspond à deux réalités, mais finalement, ça permet d'exclure personne de cette médecine spirituelle. Parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont très allergiques à l'idée d'une médecine religieuse, à l'idée des miracles, de la croyance, etc. Donc il m'a semblé nécessaire de laisser personne sur le côté, et pour ça je me suis dit qu'une bonne manière de présenter la médecine spirituelle, c'était d'en présenter les deux aspects qui ne s'opposent absolument pas. Une médecine qui est effectivement une médecine profane, qui met qui souligne l'effet de l'esprit, du mental sur l'évolution des maladies corporelles, et puis s'intégrant également dans la médecine spirituelle, une médecine qui est centrée sur la croyance, sur la foi, et qui ouvre tout à fait ses bras aux guérisons miraculeuses, aux guérisons spirituelles au sens large. Et donc je pense que le fait d'intégrer dans cette notion de médecine spirituelle une partie profane, une partie sacrée, permet à tout le monde de s'y retrouver.
Est-ce que vous pouvez prendre deux exemples, parce que vous citez beaucoup d'exemples dans votre livre,
ouais,
qui pour vous ont ouvert la porte sur l'un et l'autre aspect à ces deux dimensions?
La médecine reposant sur la croyance, la porte, c'est les miracles. Moi, je suis un médecin qui croit aux miracles. J'ai toujours adoré cette idée de miracle, mais ça, c'est encore le neurologue qui attend toujours devant une maladie de Charcot, devant une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, un miracle pour voir les symptômes disparaître. Donc, les exemples de médecine religieuse, c'est les miracles. Alors, les miracles de Lourdes, que j'ai beaucoup étudié. Les médecins sont très réticents par rapport aux miracles. Moi, pas du tout. Moi, j'adore les miracles. J'attends les miracles. Et je conseille même les miracles. C'est-à-dire que très souvent, j'ai eu... Il y a une période de ma vie où je m'occupais beaucoup d'une terrible maladie, qui est la maladie de Charcot, qui est une maladie dégénérative de la moelle épinière, et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Et combien de fois, devant un patient qui a une maladie de Charcot et qui s'aggravait de manière inexorable sur 2 ou 3 ans, je me suis dit, mais plutôt que de reprendre un rendez-vous à ma consultation ou d'aller à l'hôpital, le lieu le plus intéressant pour vous, c'est Lourdes. C'est Lourdes ou un autre endroit, un autre sanctuaire pour une prise en charge qui va au-delà de ce qu'on peut vous proposer, puisqu'on ne vous propose rien. Donc les miracles, c'est une carte à proposer. Moi, il y a beaucoup de médecins qui sont très réticents avec ça, mais moi, pas du tout, au contraire. Et je pense que justement, une des idées de ce livre, c'est de déculpabiliser les médecins et de leur dire, mais bien sûr qu'il faut utiliser justement les guérisons possibles spirituelles et la force de la croyance pour améliorer les maladies.
Alors ça, c'est l'exemple religieux.
Ça, c'est l'exemple religieux. Sinon, dans les exemples de voies spirituelles profanes qui améliorent la situation, il y en a une qui est extrêmement utilisée là aujourd'hui, c'est par exemple la méditation qui permet de réduire quasiment à la même proportion qu'un antidépresseur les rechutes de syndrome dépressif important et qui peut donc véritablement...
C'est-à-dire la pratique de la méditation ?
Pratique de la méditation qui...
C'est ce qu'on appelle la méditation pleine conscience ou...
Méditation pleine conscience, c'en est une, mais la plus connue est la méditation pleine conscience et qui a, dans des études tout à fait scientifiques, je vous dis, des résultats très comparables à un certain nombre de traitements chimiques qu'on a l'habitude de donner dans ce contexte. Donc ça, c'est un exemple très simple de voie spirituelle profane qui a une action thérapeutique.
Alors dans votre livre, vous parlez donc d'Hippocrate. Donc c'est le fameux serment d'Hippocrate que tous les médecins donc prêtent en finissant leurs études.
Oui,
c'est ça,
oui, voilà. Après la thèse.
Donc pour vous, c'est cousu de fil blanc ce type de remarque. Mais pour nous Hippocrate, on n'en est pas familier. Et donc vous décrivez cette médecine antique dont Hippocrate était un des symboles, qui était donc une médecine dite holistique, donc prenant en compte toute la personne. Et puis vous laissez entendre entendre qu'à cette époque, quand on ne savait plus quoi faire, eh bien on reconnaissait qu'on ne savait plus quoi faire. Expliquez-nous.
Mais vous savez, Hippocrate, en fait, c'est un paradoxe, Hippocrate, parce que la plupart des médecins très centrés sur le corps, des médecins rationalistes, se réfèrent à Hippocrate, en disant, ce qui est la vérité, que c'est Hippocrate qui a sorti la médecine des mains des mages et des prêtres qui, à l'époque, finalement, géraient les maladies et la prise en charge des malades. Hippocrate a été un des premiers à essayer de rationaliser les maux du corps, en disant que les maux du corps, ça venait pas d'un démon ou d'un mauvais génie, mais que ça correspondait vraiment à des désordres corporels. Donc la plupart des médecins rationalistes se réclament d'Hippocrate, et comme vous le dites, on prête tous, nous, médecins classiques, un serment sur Hippocrate. Mais Hippocrate était beaucoup plus large que ça, et ça, on ne le dit pas assez. Hippocrate définissait une chose qui était très précise dans sa tête. Cette chose, c'était les limites de la médecine. Il disait que le médecin, le bon médecin, devait savoir jusqu'où la médecine pouvait aller. C'est-à-dire qu'il y avait des maladies pour lesquelles la médecine ne pouvait rien faire. Alors ça a tout de suite fait écho en moi, puisque, encore une fois, c'est ma vie quotidienne, les maladies pour lesquelles on ne peut rien faire. Et alors, que disait Hippocrate à ce moment-là ? Eh bien, cet Hippocrate, qui est le grand médecin rationaliste, disait simplement, lorsque la médecine ne peut rien faire pour un patient, il faut l'envoyer au temple. C'est-à-dire qu'il ouvrait les voies de la médecine spirituelle une fois que la médecine classique et rationnelle ne pouvait plus rien pour le malade. Donc Hippocrate est un médecin rationaliste qui ne s'opposait pas du tout à la médecine spirituelle, qui la plaçait simplement dans une étape de soins qui venait après l'échec de la médecine classique. Et puis Hippocrate, pour terminer, Hippocrate avait dit une chose que j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'il me parle, Hippocrate. Hippocrate ne disait jamais à un patient qui venait le voir « Quels symptômes avez-vous » C'était pas du tout la question que posait Hippocrate.
Oui, ça vous en parlez, oui.
Ouais, quand le patient
venait
le voir.
Prenez un peu de temps pour expliquer ça.
C'était pas « Qu'est-ce qui vous arrive ? Où est-ce que vous avez mal ?» Non. Le patient s'asseyait devant Hippocrate et Hippocrate lui posait sa première question, qui est la grande question hippocratique, c'était « Qui êtes-vous » Donc c'est pas « Qu'est-ce que vous avez ?» c'est « Qui êtes-vous » Il fallait d'abord que le médecin comprenne qui était le patient avant de s'attaquer à ses symptômes. Et Hippocrate cherchait très loin, il demandait au patient où il habitait, s'il était exposé à des vents, à l'humidité, si sa maison était bien aérée, enfin des tas de détails tout à fait pratiques, s'il se nourrissait bien, s'il prenait de la viande, s'il prenait du poisson. Et avant de s'attaquer à la maladie, Hippocrate dessinait dans sa tête un profil psychologique et physique de son patient pour individualiser la médecine. Et ça, c'est aussi la particularité de la médecine hippocratique, c'est justement l'individualisation de la prise en charge. Ce qui est une chose qu'on a assez oublié dans la médecine d'aujourd'hui, qui est en fait une médecine assez collective, qui oublie un petit peu la force de l'individu. Et c'est aussi le risque de la médecine du futur qui va être peu à peu gagnée par l'intelligence artificielle, c'est justement de perdre ce côté individuel de la prise en charge d'un patient.
Voilà, c'est aussi une médecine qui prend le temps d'écouter. En introduction toujours de ce dossier dans le journal La Vie, et il y a ce chiffre, alors j'espère que le journaliste l'a bien vérifié, mais qui dit que les consultations sont de plus en plus courtes et que les médecins n'écouteraient en moyenne que 23 secondes leurs patients avant de les interrompre pour diriger l'entretien. On va faire une première pause et puis on vous retrouve après. Je rappelle le titre de votre livre, Guérir quand c'est impossible, d'autres voies de guérison existent, paru aux éditions Marabout.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Guérir quand c'est impossible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec un auteur, avec Antoine Sénanque, auteur d'un ouvrage du même nom, donc Guérir quand c'est impossible. D'autres voies de guérison existent, parues aux éditions Marabout. Vous êtes médecin et neurologue et donc vous êtes de passage à Toulouse et très sympathiquement vous passez par les studios de Radio Présence. Alors vous me disiez pendant la pause, est-ce qu'on va parler des miracles ? J'aime beaucoup les miracles, évidemment nous on est diffusé donc dans une bonne partie de la région Occitanie, donc en partie à Lourdes. On a même une antenne là-bas. Donc allez, commençons cette deuxième partie par les miracles. Vous y venez un moment dans votre ouvrage, vous ne commencez pas par ça. Vous laissez entendre que des miracles, vous en avez aussi constaté, il me semble, hein, directement. Vous nous en direz quelques mots. Moi, j'avais une petite remarque quand même. En page 163, vous dites la chose suivante. Lourdes, 70 miracles, 7000 dossiers déposés au bureau médical, soit 7000 personnes qui se sont déclarées guéries depuis 1858. Et puis, vous ajoutez parmi elles environ 3000 guérisons effectivement reconnues, inexpliquées par les médecins. On a reçu sur ce plateau plusieurs fois le médecin en charge du bureau médical des sanctuaires de Lourdes. Lui, il dit que c'est vraiment 7000 guérisons inexpliquées. C'est-à-dire que les médecins, 7000 fois, se sont dit depuis 1858, ou peut-être un peu plus tard, parce que le bureau médical doit dater de début des années 60 au 19e siècle, 7000 fois, ils se sont dit, on n'a pas d'explication, même si 70 miracles sont reconnus. Donc c'est beaucoup.
C'est beaucoup, ce d'autant qu'il y a beaucoup, beaucoup de guérisons qui n'apparaissent pas dans ces statistiques. Parce que
ça fait un toutes les deux semaines quand même. Hein.
Ouais, ouais, mais il faut aussi pas laisser de côté les guérisons spirituelles, parce que les guérisons qui sont colligées dans les statistiques de Lourdes sont des guérisons de maladies corporelles. Par exemple, vous n'intégrez pas les guérisons de dépression nerveuse profonde qui ont été nombreuses à Lourdes. La dépression, c'est une maladie aussi, et ça peut être une maladie. Et donc tous ces guérisons on va dire, entre guillemets, de maladies psychologiques, ne sont pas pris en compte dans le cadre des guérisons inexpliquées de Lourdes. Et pour justement, par volonté de rester le plus scientifique possible dans l'examen de ces guérisons inexpliquées. Mais il y a, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus de guérisons inexpliquées qu'on l'imagine.
Peut-être à plusieurs par semaine.
Alors, mais je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a sûrement beaucoup, beaucoup de guérisons inexpliquées. Et puis, vous savez, il y a aussi des gens qui guérissent et qui n'ont peut-être pas envie de le signaler, de le clamer. Je pense qu'il y a des guérisons secrètes à Lourdes et beaucoup plus nombreuses qu'on l'imagine.
Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez fait face parfois à des guérisons miraculeuses ou inexpliquées, ouais, puisque vous conseillez parfois à vos patients d'aller à Lourdes ?
le mot guérison inexpliquée passe mieux quand même dans le milieu médical que guérison miraculeuse. Les guérisons inexpliquées dans le milieu médical, c'est quelque chose de scientifiquement tout à fait reconnu. Il y a des guérisons inexpliquées, il y a eu des grandes études scientifiques sur le sujet, et aucun médecin ne nie la réalité des guérisons inexpliquées en médecine, notamment dans la cancérologie, où tous les cancérologues, les oncologues du monde ont des expériences personnelles de cancers qui ont disparu. Il y a des études là-dessus qui montrent notamment chez l'adulte, dans le cadre des mélanomes, ou chez l'enfant, dans le cadre des neuroblastomes, qui sont des tumeurs du système nerveux, des guérisons que les oncologues et les cancérologues ne comprennent pas, des disparitions complètes des tumeurs. Ça, c'est quelque chose qui reste tout à fait scientifique et reconnu. Ce qui n'est pas du tout reconnu par le milieu scientifique, ce sont les guérisons miraculeuses. Mais alors, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est assez paradoxal l'attitude de la médecine classique par rapport au miracle. En fait, ce que les médecins reprochent au miracle de Lourdes, c'est paradoxalement de ne pas être assez spectaculaire. Ça, c'est très étonnant, parce que vous interrogez des gens sur les miracles, ils vous disent « Ah, je ne crois pas du tout au miracle », et puis quand vous creusez un petit peu plus loin, vous dites « Bah non, parce qu'en fait, tous les miracles peuvent s'expliquer ou s'expliqueront un jour ». Si vous aviez, ce qui était le grand reproche des scientifiques par rapport à Lourdes, des jambes qui repoussaient à Lourdes ou des résurrections à Lourdes, la communauté scientifique accepterait tout à fait l'idée du miracle, mais c'est parce que les miracles ne sont pas assez spectaculaires, finalement, que...
Par exemple, la maladie de Parkinson ont été atteints à Sœur Marie-Simon-Pierre, ça...
Oui, ça oui, mais ça encore, c'est pas assez spectaculaire. Le grand reproche des scientifiques du 19e siècle, il y a eu des tas de livres là-dessus, c'était bah, regardez, les jambes ne repoussent pas à Lourdes, donc les miracles n'existent pas. Voilà. En fait, on a envie de dire que c'est vrai que les jambes, pour le moment, n'ont pas repoussé à Lourdes, mais si vous suivez et analysez un peu l'histoire des miracles, il y a eu dans les histoires des miracles des cas de repousse de jambes, de repousse de membres. Et notamment, il y a un très beau cas qui était le miracle le plus célèbre du XVIIe siècle, qui est justement la repousse, enfin la reconstitution d'une jambe chez un jeune homme qui était tombé de cheval en Espagne et qui s'est fait une fracture ouverte de jambe qu'on avait amputée et qui a vu 3 ans plus tard, au décours d'une nuit de spirituel, la repousse de sa jambe. Ce qui était très intéressant, c'est que c'est bon, on a beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de documents qui racontent ce miracle qui a défrayé la chronique au XVIIe siècle. Il y a eu des examens par des médecins, par des spécialistes de l'époque, par le chirurgien même qui avait réalisé l'amputation de la jambe et qui a constaté, donc 3 ans plus tard ou quelques années plus tard, la repousse de cette jambe. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs sur ce miracle, c'est que la jambe qui s'était reconstituée était une jambe qui n'était pas neuve. En réalité, en examinant cette jambe qui avait repoussé, on trouvait sur cette jambe des cicatrices que le jeune homme avait acquises dans l'adolescence. C'était donc pas une reconstitution d'une jambe nouvelle, c'était véritablement une résurrection de cette jambe. Donc les miracles, il y a eu des miracles spectaculaires, il y a eu des histoires de résurrection, il y a eu des histoires de membres amputés qui repoussent, mais bon, ce sont des histoires lointaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, les miracles finalement manque paradoxalement un peu de force pour convaincre la communauté scientifique. Alors la maladie de Parkinson, ça m'intéresse personnellement beaucoup puisque c'est une maladie neurologique et que c'est vrai que lorsque vous étudiez les miracles, il y a assez peu de guérisons de maladies neurologiques rapportées dans le cadre des miracles, sauf la sclérose en plaques, qui est une maladie un petit peu particulière dans le cadre des grandes maladies neurologiques. Mais vous n'avez jamais eu, enfin à ma connaissance, de miracles, c'est-à-dire une maladie d'Alzheimer qui disparaît avec soudainement la réapparition de tous les souvenirs dans un cerveau atteint par cette maladie. La maladie de Parkinson, il y a eu quelques cas, mais c'est très rare, et c'est vrai que je rapporte cette guérison miraculeuse.
Donc, Sœur Marie-Simon-Pierre, cette religieuse de la maternité catholique qui, en 2005, à la prière de l'ensemble de sa communauté et de la sienne, s'est vue donc guérie de manière spontanée et assez miraculeuse, hein, en tout cas c'est reconnu comme tel par l'Église, d'une maladie de Parkinson.
Absolument, et j'en parle parce que c'est vrai qu'en suivant les histoires de miracles, en écoutant les témoignages des miraculés qu'on trouve maintenant assez facilement sur Internet, on est souvent un peu déçu de la manière dont tout ça est raconté. Et puis, vous savez, l'homme qui a bénéficié ou la femme qui a bénéficié d'un miracle, quand vous l'écoutez, vous ne pouvez pas vous retenir de l'envier un petit peu. C'est comme le gagnant du loto qui a gagné 10 millions d'euros. Vous l'écoutez et vous dites ouais, « Pourquoi pas moi ?» Donc vous avez en fait des sentiments un petit peu contradictoires quand vous écoutez ces bénéficiaires de miracles. Et c'est vrai que souvent, je trouve que ces interviews, enfin, j'en gardais une certaine impression de déception. Sauf cette femme dont on peut trouver le témoignage très facilement sur Internet, qui raconte la guérison de sa maladie de Parkinson. Et là, vous avez véritablement l'impression que vous touchez à une fantastique expérience spirituelle. La manière dont cette femme raconte la guérison de sa maladie est très 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 saisissante. Et elle termine justement cette description de la disparition de sa maladie de Parkinson en disant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette nuit, j'ai vécu quelque chose. Voilà.
Elle raconte qu'elle s'est levée en pleine nuit, qu'elle est allée prier à la chapelle et qu'elle s'est rendue compte.
Et pour résumer son affaire,
ça a commencé par une expérience spirituelle et après, elle s'est rendue compte qu'elle était guérie.
C'est ça. J'ai vécu quelque chose. En fait, c'est assez étonnant parce que la veille, elle essaie d'écrire une lettre au pape et sa maladie de Parkinson l'empêche totalement de former les lettres. Et là, elle tombe dans une dépression profonde en disant « je peux même plus écrire quelques mots au pape pour lui demander, d'ailleurs, c'était simplement pour lui souhaiter à lui-même une guérison de sa maladie de Parkinson, et elle se rend compte qu'elle est incapable d'écrire. Elle revient dans sa chambre en pleurant, et au milieu de la nuit, elle a une expérience spirituelle assez profonde, elle se lève, elle va à son bureau, elle prend une plume, une page blanche, et là, elle écrit une feuille entière avec une écriture absolument normale.
Alors Antoine Sénanque, j'aimerais maintenant qu'on parle d'une autre, je ne sais pas s'il faut parler de miracle, mais d'une autre réalité de la médecine que vous soulignez, c'est la place des énergies. Alors, pardon pour les questions simples que je vais vous poser, vous parlez entre autres donc de la médecine quantique. Vous nous initiez rapidement aux réalités, on va dire, quantiques, en disant la chose suivante, le corps n'est pas si matériel que ça, il est constitué à plus de 99% de vide, laissant entendre qu'en fond, au fond, ça serait donc des signaux chimiques et énergétiques qui régiraient notre santé. Est-ce que là, c'est une des grandes découvertes de la médecine ? La transition paraît un peu abrupte avec ce qu'on vient d'évoquer, mais notre santé serait une santé énergétique d'abord ?
Oui, bon, je suis pas du tout un spécialiste de la médecine quantique et je crois qu'il faut être très prudent parce que c'est des choses qui sont vraiment en train véritablement de se développer.
Alors faites-nous un peu de béaba quand même pour commencer, même si vous êtes pas un spécialiste. Que si vous en parlez, c'est que vous prenez le risque d'en parler. Donc,
Oui, je prends le risque d'en parler parce que ce qui m'intéresse dans la médecine quantique, c'est en fait la vision quantique de la matière. C'est-à-dire que on est tous formés et restés sur une vision très newtonienne et matérialiste du corps, c'est-à-dire qu'on voit toujours finalement notre corps comme un ensemble d'atomes avec des électrons qui tournent autour, et c'est finalement une vision très matérielle des choses. Mais cette vision très matérielle qui répond aux lois de la gravité, aux lois de Newton, à la physique classique, en fait est une vision qui disparaît lorsque vous arrivez au stade atomique, c'est-à-dire lorsque vous êtes au niveau des atomes, finalement, les atomes ne se présentent pas comme des petites boules avec un électron qui tourne autour. Ils se présentent comme des champs d'énergie. Et c'est vrai que la médecine quantique a une vision de la matière qui est une vision dématérialisée, c'est-à-dire qui voit la matière comme en fait des ensembles de pôles d'énergie et qui crée des champs électromagnétiques qui échangent entre eux des vibrations, des messages. Alors voilà, cette vision énergétique de la matière, ça permet finalement d'ouvrir plus facilement que la vision purement matérialiste, les portes à une médecine spirituelle, puisque c'est vrai qu'on comprend mieux comment des influences spirituelles peuvent jouer sur des ondes électromagnétiques, et on comprend moins comment des influences spirituelles pourraient jouer directement sur des petites boules avec des électrons qui tournent autour. Donc la médecine quantique, finalement, en nous faisant découvrir une vision purement énergétique de la matière, permet d'ouvrir en fait assez facilement, plus facilement, la voie à une médecine spirituelle, aux influences spirituelles qui sont elles-mêmes probablement quand même des influences à base d'énergie, et nous permet de mieux comprendre comment justement ces influences spirituelles pourraient jouer sur des maladies ou des anomalies de la matière. Alors il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à la médecine quantique, c'est-à-dire à une vision purement énergétique des maladies, en disant que les maladies sont justement des anomalies au niveau des champs électromagnétiques à l'échelle tout à fait atomique et moléculaire. C'est pour ça que je parle
Ça reste du domaine de l'hypothèse quand même, ou globalement
Non, que la matière soit vraiment énergétique, ça c'est pas l'hypothèse, ça c'est de la science. Maintenant que les modifications des ondes et de l'électromagnétisme jouent un rôle dans les maladies, c'est probable, mais c'est pas absolument démontré. Mais il y a beaucoup de recherches en la matière qui permettent finalement espérer qu'un jour, justement, on pourra traiter un certain nombre de maladies, non pas par des médicaments et de la chimie, mais par justement des
stimulations,
une action justement sur ces ondes électromagnétiques et ces quantas d'énergie. Il y a même des gens qui ont étudié, parce que chaque médicament a finalement une signature électromagnétique, et on a pas mal étudié un médicament qui s'appelle l'histamine, qui normalement a un effet secondaire qui est d'accélérer le cœur. Il y a des chercheurs qui ont réussi à définir finalement la marque électromagnétique de l'histamine, et avec cette marque électromagnétique, ces ondes qui correspondent à l'histamine, ils ont réussi à déclencher au laboratoire des accélérations du cœur, donc l'effet de la molécule, alors que l'histamine n'était pas administrée en tant que médicament, simplement en envoyant le signal électromagnétique du médicament, ils arrivaient à avoir une action physique enregistrable, ce qui ouvre peut-être la porte à une médecine thérapeutique qui ne se servira plus de la chimie, qui ne se servira plus des médicaments, mais peut-être qui servira de la signature électromagnétique des choses.
Antoine, c'est donc dans toutes ces médecines dites alternatives, est-ce qu'on peut, avant qu'on fasse une deuxième pause, trouver quelques grandes catégories ? Là, vous venez d'en citer peut-être une première. Est-ce qu'il y en a une autre qui concerne en effet le mental ? On pourrait mettre dedans donc l'hypnose, la méditation. Est-ce que c'est quoi ces deux grandes familles ? C'est énergétique et mental ?
Non, je pense que tout ça communique. Bon, il y a effectivement beaucoup de médecines alternatives qui reposent aussi sur l'effet placebo. L'effet placebo, il a tendance à être un petit peu méprisé parce que on dit ouais, bon, c'est un effet qui est dans la tête, c'est un effet psychique, mais pas du tout. L'effet placebo, c'est un effet thérapeutique, c'est un effet qui est d'origine à la base psychologique, mais qui prend véritablement corps en nous. Il y a des études qui montrent que l'effet placebo, c'est-à-dire l'amélioration induite par un traitement qui ne contient pas de produits actifs, entraîne des véritables variations et modifications corporelles qu'on peut mesurer. Un effet placebo modifie par exemple l'état de votre système immunitaire. Un effet placebo modifie les doses d'endorphine ou d'équivalent de morphine intérieure qui permet de mieux supporter un certain nombre de douleurs. Donc l'effet de placebo a une signature physique, matérielle, qu'on peut tout à fait mesurer. Donc il y a beaucoup de médecines alternatives qui aussi déclenchent des mécanismes de guérison par le biais de cet effet placebo. Et encore une fois, ce n'est pas un effet réservé à un psychisme délirant. C'est un effet tout à fait naturel que nous avons tous potentiellement en nous et qu'il faut activer. Et il y a beaucoup de médecines alternatives qui active les voies de l'effet placebo, et c'est tout à fait respectable. Ça veut dire que c'est une voie thérapeutique comme une autre. Vous savez, il y a Émile Coué, le père de la fameuse méthode Coué, qui disait qu'on avait tous en nous une pharmacie intérieure avec tous les médicaments. Et ça, j'y crois tout à fait. Je pense qu'on a une pharmacie intérieure. Le problème, c'est qu'on a perdu le pharmacien. C'est-à-dire que on n'a pas le mode d'emploi de nous-mêmes. On a tout ce qu'il faut pour nous guérir, mais on ne sait pas comment faire. Alors, l'effet placebo, bah, ça fait partie justement d'un effet thérapeutique qui peut justement nous aider à trouver des traitements que nous avons en nous, mais qui restent éteint et de rallumer les voies qui nous permettent d'y accéder.
On a tout ce qu'il faut en nous pour nous guérir. Je vous propose qu'on recommence là-dessus après cette deuxième pause, parce que c'est vrai que votre livre n'est pas sans poser quand même une question, c'est que on peut avoir l'impression que vous vendez un peu du rêve, c'est-à-dire qu'on puisse soigner au-delà peut-être de l'imaginable, et j'imagine que c'est une question que peuvent se poser les auditeurs, et c'est aussi ce qui est un peu dans l'air, même si c'est pas du tout le thème de votre ouvrage, avec tout ce qu'on entend autour du transhumanisme.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Guérir quand c'est impossible, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin avec donc Antoine Sénanc, pour ceux qui nous prendront en cours de route, auteur d'un ouvrage du même nom avec ce sous-titre « D'autres voies de guérison existent » paru aux éditions Marabout. Antoine Sénanc donc est médecin et neurologue. Comme je le disais avant la deuxième pause musicale, je voulais vous relancer sur cette phrase que vous avez eue en disant qu'on avait en fait en nous tout ce qu'il fallait pour guérir. Dans une interview que vous avez donc donnée au journal La Vie dans son numéro de la semaine dernière, vous avez aussi cette phrase, donc vous rapportez les propos d'Émile Coué, on a tous une pharmacie intérieure, et vous ajoutez la chose suivante, et cette pharmacie intérieure est capable de guérir toutes les maladies. À la fin de votre livre, vous attaquez bille en tête le transhumanisme et son rêve, on va dire, d'immortalité et de solutions algorithmiques à toutes les maladies. Est-ce que là, vous n'allez pas un petit peu loin de promettre toutes les guérisons possibles et imaginables ?
Non, je ne promets rien. Vous m'avez dit tout à l'heure que je vendais du rêve. Non,
et capable de guérir toutes les maladies.
Je ne vends pas du rêve. De toute façon, il vaut mieux vendre du rêve que de vendre du cauchemar. Hein. Mais je ne vends pas du rêve parce que je vends de la conviction. Tout ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est quelque chose que je pense et j'en suis fondamentalement persuadé. Et puis, c'est aussi le fruit d'une expérience médicale pratique que j'ai depuis 30 ans. Je pense que d'ailleurs, c'est la particularité de ce livre, c'est qu'il n'est pas écrit par un sectateur des médecines alternatives. Je ne prescris pas de médecine alternative. Je suis un médecin archi classique qui fait des ordonnances comme tout le monde et je suis mes patients comme tout autre médecin j'ai rien à gagner sur les médecines alternatives, mais simplement c'est l'expression de d'une conviction qui est venue après des années de découverte des limites de la médecine on va dire classique. Donc je pense que je ne vends pas du rêve, je vends de la conviction, et ça c'est très très important parce que j'aimerais bien que ce livre soit un petit peu, que je ne sois pas le seul à l'écrire, et je pense que pour faire progresser les choses, il faut que ce soit justement précisément les médecins classiques qui écrivent des livres comme ça et qui parlent de la médecine intégrative, qui parlent de l'élargissement de la médecine. Je pense que c'est comme ça que la médecine progressera. C'est pas si vous êtes un spécialiste de la méditation en écrivant 10 livres sur la méditation que vous ferez avancer les choses. C'est les gens de la médecine classique, la médecine corporelle, qui doivent se rendre compte qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'ouvrir les bras aux médecines spirituelles, quelles qu'elles soient. Bon, encore une fois, si les gens ne supportent pas l'idée d'une médecine religieuse, peu importe. Qu'ils acceptent au moins la médecine profane et l'effet du mental, de l'esprit profane sur le corps. Peu importe les enjeux que les gens trouvent toujours dans ces problèmes de médecine spirituelle, l'important c'est que la médecine spirituelle existe. Et pour ça, il faut que les médecins classiques écrivent ça.
Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vois qu'il nous reste 8 minutes. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'épigénétique, parce que j'imagine que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas. Et ce que vous dites de l'épigénétique, puisque, en tout cas pour moi, vous m'avez dégrossi sur le sujet, a tendance à aller dans le sens de la thèse de votre ouvrage. Expliquez-nous pourquoi et ce qu'est l'épigénétique.
L'épigénétique, ça, pour moi, c'est une grande découverte. Alors,
racontez l'histoire avec votre père, peut-être, parce que ça peut éclairer.
Oui, c'est une histoire très personnelle. C'est vrai que ça souligne beaucoup l'importance de l'épigénétique. Pour moi j'ai adopté mes enfants. J'ai deux enfants que j'ai adoptés il y a un peu plus de 25 ans. Et c'est vrai que moi, je suis d'une famille assez, on va dire, conventionnelle. Et le jour où j'ai annoncé que je me lançais dans une voie d'adoption, l'accueil a été assez mitigé, surtout du côté de mon père, qui était un homme merveilleux, mais très 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 convaincu du tout génétique. C'est-à-dire pour lui, c'était extrêmement important le code génétique et la trace génétique de la famille. Bon, comme je le dis dans le livre, je suis très content de mon passé génétique, mais enfin en même temps, il n'y a jamais eu de prix Nobel dans la famille, jamais eu de très grands artistes, il n'y a pas de Mozart, etc. Donc, la nécessité absolue de prolonger prolonger la génétique familiale n'était pas apparu comme véritablement indispensable. Donc j'ai fait cette procédure d'adoption, et puis on a deux enfants merveilleux, mais il y a toujours eu cette espèce de petite ambiguïté sur le fait que les enfants n'avaient pas les mêmes gènes que les grands-parents, etc. Et puis j'ai découvert l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est formidable parce que c'est justement ce qui scientifiquement remet complètement en question cette espèce de carcan génétique qu'on a vécu pendant plusieurs décennies.
Vous dites que c'est une vraie révolution.
C'est une vraie révolution. On pensait que jusqu'à la découverte de l'épigénétique, on va dire que depuis une vingtaine d'années, jusqu'à il y a 20 ans, on considérait que on avait nos gènes et puis c'était tout. Et donc tout était signé, notre destin était finalement inscrit dans le noyau de toutes nos cellules en respectant ce code génétique tout à fait immuable. Et puis on s'est rendu compte que le code génétique n'était pas du tout immuable et qu'en fait il fallait pas voir les gènes comme un espèce de marbre sur lequel on pouvait absolument avoir aucune action. Il fallait voir finalement les gènes comme, des ampoules. Des ampoules qui s'allument ou qui s'éteignent. Et en réalité, les gènes sont commandés par des interrupteurs. Et l'épigénétique, c'est les interrupteurs. C'est-à-dire tous les moyens de contrôle de l'expression des gènes. Si vous avez un gène qui commande, par exemple, la couleur de vos yeux, si cette couleur doit être bleue, vous vous dites « je vais forcément avoir les yeux bleus ». Mais si vous avez un interrupteur épigénétique, donc qui modifie l'expression de ce gène, et vos yeux seront d'une couleur différente. Alors l'épigénétique, on l'a découvert d'ailleurs de manière assez logique, puisque il y avait quand même un mystère dans ce code génétique qui était inscrit dans le marbre. Ce mystère, c'était de savoir pourquoi on avait des cellules différentes. Parce que finalement, si vous regardez le noyau d'une cellule nerveuse, d'un neurone, et puis le noyau d'une cellule de la peau, finalement, vous avez exactement le code génétique. Alors pourquoi, avec le même code génétique, vous avez d'un côté un neurone, avec sa forme que vous connaissez bien, ses petites branches et son long tronc qui correspond à l'axone, et puis une cellule plate qui est la cellule de la peau, qui n'a absolument rien à voir morphologiquement avec la cellule nerveuse. Pourtant, ces deux cellules ont exactement le même code génétique. La réponse, c'est l'épigénétique qui, dans l'une et l'autre cellule, a éteint un certain nombre de gènes et allumé d'autres pour faire en sorte que la synthèse des protéines soit différente dans une cellule et l'autre et aboutir à des modifications morphologiques qui font que toutes nos cellules sont différentes.
Alors, en quoi ça va dans le sens de la thèse de votre livre ?
Alors, la thèse de mon... non, mais ça fait partie, justement, des...
Parce que la question, c'est qu'est-ce qui décide, justement, de
On s'est rendu compte que le centre de contrôle, l'épigénétique, était très sensible à un certain nombre de facteurs extérieurs. Facteurs alimentaires, facteurs de stress et, je l'espère, ce qui n'est pas encore démontré, mais c'est un petit peu ma thèse, des facteurs spirituels. Alors, le rôle de l'environnement sur l'épigénétique, il est très connu. L'exemple célèbre, c'est les abeilles. Entre une ouvrière et une reine, vous avez exactement le même code génétique. L'ouvrière est une petite abeille un petit peu rabougrie qui va vivre 2 mois, qui est stérile. La reine, qui a exactement le même code génétique, mais qui a été nourrie différemment, est grande, fertile et va vivre 2 à 3 ans. Ces deux exemples montrent que avec le même code génétique, il y a deux véritablement animaux différents qui peuvent se développer, et la différence, c'est la manière de les nourrir. L'ouvrière est nourrie par le pollen, la reine est nourrie par la gelée royale. Eh bien, vous voyez bien que l'épigénétique est véritablement allumée et totalement dépendante d'un facteur extérieur qui est un facteur alimentaire. Alors on retrouve ça sur l'épigénétique humaine, avec des facteurs qui sont de plus en plus étudiés pour expliquer comment finalement l'expression des gènes est commandée par l'épigénome. Et parmi les facteurs qui jouent un rôle dans ce contexte, vous avez des facteurs alimentaires, des facteurs de stress. Et à partir du moment où vous avez des facteurs extérieurs qui jouent sur l'expression des gènes, pourquoi pas des facteurs intérieurs ? Et c'est vrai que le stress, ça fait partie finalement d'une influence spirituelle. Le stress, ça passe par l'esprit. Alors si le stress peut abîmer notre expression des gènes et le modifier le plus souvent dans un sens négatif, pourquoi pas ne pas imaginer que vous avez d'autres influences qui, en modifiant l'épigénome, en modifiant l'expression des gènes, aboutiront à des améliorations de notre état et probablement des guérisons. On étudie beaucoup, notamment les modifications de l'épigénome dans le cadre du cancer, puisqu'il y a beaucoup de cancers qui sont dus justement à des modifications épigénétiques et donc qui modifient l'expression des gènes et qui déclenchent des multiplications anarchique de cellules. Si on peut jouer sur justement ces contrôles génétiques par les voies spirituelles, eh bien je pense que c'est une énorme voie de guérison possible qui s'ouvre.
Et ben voilà, passionnant. Merci en tout cas, vous êtes bon écrivain et puis bon pédagogue. Merci de vous être mis à notre portée. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, « Guérir quand c'est impossible, d'autres voies de guérison existent », paru aux éditions Marabout. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.